Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, la Chine devient-elle une puissance mature ? TPP contre FTAAP. Entre les États-Unis et la Chine, c'est à qui dirigera la plus grande zone de libre-échange. Le partenariat transpacifique piloté par Washington a déjà pris un temps d'avance puisque l'accord a été signé début octobre. Mais Pékin promet de riposter dès la semaine prochaine au sommet de l'APEC, le Forum de coopération Asie-Pacifique, en relançant son propre projet, le FTAAP, donc potentiellement la plus vaste zone de libre-échange de la planète. Le temps où les Chinois restaient à l'écart des affaires du monde semble désormais révolu. Sous la présidence de Xi Jinping, le pays est devenu la deuxième économie mondiale et le voilà prêt à rivaliser avec les plus grandes puissances, cette fois sur le terrain politique. Le changement d'attitude de la diplomatie chinoise depuis la rentrée est d'ailleurs peut-être lié à ce nouvel objectif. Xi Jinping multiplie en tout cas les signes de bienveillance, en serrant la main de son rival taïwanais, en allant discuter avec les Japonais et les Sud-Coréens, en s'engageant sur des objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre avant la COP21. Mais ce que fait la Chine à l'extérieur n'est jamais sans lien avec ses objectifs à l'intérieur. Or justement sur ce terrain-là aussi, les choses changent. Nouvelle donne démographique, nouvelle donne économique, plus proche des standards des économies développées. Alors la Chine devient-elle une puissance mature ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, ça va de soi, des spécialistes de la Chine, ils sont trois ce soir. Alice Ekman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où vous y êtes la responsable des activités Chine. Vous êtes par ailleurs chargée de cours à Sciences Po. Pour discuter avec vous, Emmanuel Linco, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'Institut catholique de Paris, directeur de la société de conseil Signes et Stratégie. Vous venez de me l'apprendre. Chroniqueur radio sur BFM, une fois par semaine, c'est ça, vous parlez de la Chine ?
Exactement, on parle de géopolitique de la Chine avec un pays tiers.
Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence, il s'agit de Jean-François Dufour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'économie chinoise et vous dirigez une société de conseil stratégique DCA Chine Analyse. Alors je voudrais qu'on démarre cette discussion parce qu'il y a énormément d'événements qu'on a essayé d'agglomérer pour voir s'il y avait une cohérence entre toutes ces actualités. Commencer par la fin de la politique de l'enfant unique. Alors c'est une décision qui a été annoncée lors du 5e plénum du 18e comité central du Parti communiste chinois. C'est-à-dire le 18e comité central, il a commencé en 2012 et puis chaque année, voilà, les délégués se réunissent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une politique, celle de l'enfant unique qui aura contribué au dynamisme chinois jusqu'à aujourd'hui, Alice Ekman?
Ça dépend sur quel point de vue.
Sur le plan de son développement économique, alors, par exemple.
Alors, ces dernières années, c'est difficile de penser cela, puisque on a aujourd'hui plusieurs problèmes démographiques. Le premier, c'est le vieillissement de la population, et le deuxième, c'est la baisse de la population active en Chine. Donc ça, aujourd'hui, ça pèse sur l'économie. Peut-être qu'à l'époque de Deng Xiaoping, quand il avait lancé en 1979, il y avait en tout cas des explications socio-économiques à l'époque, même s'il y avait aussi des réticences d'un point de vue social, voire psychologique, qui était partagée par une partie de la population.
Emmanuel Linco.
C'est important sur le plan psychologique parce qu'il faut rappeler que cette décision, comme le rappelait Alice un instant, prise par Deng Xiaoping en 1979, avait été très intrusive. C'est-à-dire que vous entriez, l'État parti entrait dans l'intimité même des familles en interdisant plus d'un enfant. Bon, mais on le sait, c'est un non-événement en définitive parce que naturellement, je dirais, l'on tend vers une nucléarisation des familles, donc un enfant par famille. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est un changement. Mais dans les faits, je ne pense pas que cela change grand-chose.
On peut dire au moins, Jean-François Dufour, que ça aura accéléré la transition démographique chinoise, cette politique de l'enfant unique.
Oui, effectivement, je pense que c'est un des points qui reflète l'évolution et l'énorme changement de la Chine en 35 ans. Passé l'aspect très répressif de cette politique, on peut penser qu'elle a peut-être évité à la Chine une catastrophe démographique quand elle a été mise en place. Aujourd'hui, les données sont très différentes. La Chine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 79. Et cette décision est un des reflets de cette évolution très importante.
Alors, je vous ai interrogé tous les trois sur à la fois à quoi a servi cette politique et puis comment vous réagissez. On va avoir l'occasion à nouveau de vous entendre là-dessus, mais je voudrais vous faire entendre quelques Chinois extraits de quelques micro-trottoirs qui ont été diffusés ces jours derniers, puisque ça a été annoncé tout récemment, par l'AFP, BFM et France 2.
Les gens pensent de la Chine, c'est ça, la politique de l'enfant unique. Et tout le monde pense qu'il n'y a pas de liberté et que les gens n'ont pas les droits qu'ils méritent. Donc je pense que c'est une bonne chose.
Je pense que cette politique est vraiment bien. Je suis née dans les années 80, je suis fille unique et souvent je me sens seule. Je pense que c'est bien mieux de grandir avec un frère ou une sœur à ses côtés. Et puis au moins quand les parents vieillissent, ça permet de partager les frais pour s'occuper d'eux.
Moi, j'ai déjà un enfant de 6 ans et ce n'est pas facile de l'élever. Je n'ai pas vraiment envie de recommencer.
C'est trop cher d'élever des enfants en Chine. Je ne gagne pas assez d'argent. Je n'ai déjà pas assez pour moi tout seul.
Bon, Emmanuel Linco, est-ce que les Chinois ont vraiment envie d'avoir davantage qu'un enfant? Vous nous disiez, ce processus de nucléarisation, il a déjà été effectué. Le fait d'assouplir cette politique-là, vous pensez que ça n'aura pas d'effet spectaculaire?
Je pense pas. C'est un tournant, encore une fois, d'un point de vue psychologique, on l'a dit. C'est peut-être une façon aussi de résoudre un épineux problème lié aux dérives de cette coercition démographique, savoir les enfants noirs, non pas noirs de peau, mais noirs parce que non déclarés.
Voilà ce qu'on cache.
Voilà. Et donc ça, c'est quand même un gros problème. C'est-à-dire qu'il y aurait à peu près 40 millions de Hayrais, d'enfants non déclarés. Bon, alors peut-être que c'est une façon de les intégrer. En même temps, ce qu'il faut rappeler, ce qui est intéressant si vous voulez dans cette décision assez spectaculaire, c'est qu'en amont, il y a déjà un peu plus de 2 ans, à Shanghai, on avait mis un terme justement à cette politique de l'enfant unique. Donc c'est une façon de rappeler aussi que d'un point de vue stratégique, on a par tâtonnement, d'une manière toute chinoise je dirais, une façon de balayer le terrain et de voir si ça marche. Et on l'a vu à Shanghai, il n'y avait pas de réticence particulière, etc. Et ensuite on applique au niveau national. Ça me paraît intéressant de ce point de vue-là. Sinon, encore une fois, pour moi, c'est pas si important.
L'objectif recherché, Jean-François Dufour, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut davantage de jeunes Chinois pour payer les retraites d'une population qui vieillit. C'est aussi relancer la consommation. Ce sont avant tout des considérations économiques et sociales, disons.
Certainement en bonne partie. Je pense que dans le calcul des autorités, effectivement, c'est le cas. Avec toute l'ambiguïté de la Chine en transition aujourd'hui, parce que d'ailleurs un des témoignages qui ont été passés l'évoquait, payer des retraites, effectivement, le jour où la Chine aura un système de retraite digne de ce nom. Et donc, effectivement, le problème pour l'instant, je rejoins l'analyse sur le fait que ça ne changera pas foncièrement les choses, parce que les familles chinoises qui peuvent se le permettre, en fait, trouver des passe-droits pour avoir plus d'un enfant, celles qui ne peuvent pas se le permettre, je pense pas que l'autorisation les amènera à changer leur position. Donc on a effectivement une volonté peut-être également de relancer la consommation, mais avec là aussi un frein qui est le système chinois tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine, malgré ses efforts depuis 3 ans et le début de l'ère Xi Jinping, a du mal à enclencher un véritable processus de consommation.
Alice Ekman.
Oui, à l'époque déjà, avant cette décision toute récente, les familles qui pouvaient se le permettre pouvaient payer une taxe pour avoir 2 ou 3 enfants. Donc c'est intéressant aussi de garder à l'esprit qu'il y avait déjà une flexibilisation et depuis sa création, la politique de l'enfant unique n'a jamais été appliquée à l'ensemble de la population. Il y avait déjà des exceptions pour les foyers ruraux, notamment pour permettre aux foyers d'avoir plusieurs enfants et des garçons qui pouvaient les aider au champ, et aussi il y avait des exceptions pour les minorités ethniques chinoises. Voilà, aujourd'hui on a un assouplissement, la fin de la politique de l'enfant unique est une décision majeure. Ceci dit, ça ne marque pas la fin de la politique familiale de la Chine, puisqu'il y a une limite qui est 2 enfants et les foyers ne peuvent pas avoir 3 enfants aujourd'hui, sauf en cas de payer cette taxe.
Je reviens un instant vers vous, Jean-François Dufour. Quand vous dites aujourd'hui la relance de la consommation, enfin la Chine n'est pas prête à une relance de la consommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois seront avant tout un peuple d'épargnants ou qu'ils n'ont même pas d'argent suffisant pour épargner? Est-ce que c'est lié par exemple, peut-être, je sais pas moi, à un manque de sécurité qui fait que les Chinois ne vont pas vers une consommation un peu plus importante qu'elle l'est aujourd'hui?
Oui, effectivement, c'est alors la notion de peuple d'épargnants. Il n'y a pas de notion culturelle derrière. Hein, c'est simplement une situation sociale qui l'explique. Effectivement, un des grands soucis des autorités aujourd'hui, c'est que depuis 3 ans, on a cette volonté affichée de passer d'un système traditionnel dans lequel l'investissement a soutenu l'économie, c'est ce qui s'est fait depuis le début des réformes, à un système dans lequel on arrive à enclencher une consommation qui soit moins susceptible de dérives en termes de surinvestissement. Le problème, c'est qu'effectivement, dans un système qui reste très fragile socialement, dans lequel l'assurance chômage et la retraite sont très loin de ce qu'on peut imaginer dans un pays occidental, les gens n'ont pas encore ce réflexe de consommation, même si on a certains secteurs dans lesquels, bon, malgré tout, on a eu le démarrage, hein, comme l'automobile par exemple ou l'immobilier, mais le lancement vraiment de la consommation à l'échelle nationale reste pour l'instant un vœu des autorités qui n'est pas vraiment suivi d'effet.
Emmanuel Linco.
Effectivement, le vœu pieux du gouvernement central, c'est changer de paradigme économique, donc de relancer la croissance par un développement des provinces de l'Ouest. Mais c'est évidemment difficile, d'autant que, on le sait bien, les statistiques chinoises sont sujets quand même à discussion, à caution.
Alors voilà, les statistiques. Alors s'agissant de la croissance, pour 2015, les prévisions, c'est 6,8%, ce qui paraît énorme évidemment pour nous Français ou nous Européens, mais c'est 2 fois moins qu'au début des années 2000, et il paraît que c'est quand même un petit peu surévalué.
C'est ce que l'on dit. En même temps, si vous voulez, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que on a un régime qui, on le voit notamment à la veille de la COP21, annonce rétroactivement des chiffres qui longtemps avaient été dissimulés. Donc c'est un peu gênant, si vous voulez, puisque c'est le sujet de l'émission, n'est-ce pas, pour s'affirmer en tant que puissance responsable, en tant que puissance mature. C'est-à-dire qu'on vous annonce du jour au lendemain que les chiffres d'hier n'étaient pas forcément les bons. Et donc on ne sait pas véritablement sur quel pied danser. C'est sûr que la croissance est encore au rendez-vous. C'est sûr qu'il y a un changement économique structurel très important. On ne connaîtra plus de toute façon une croissance à 2 chiffres. Ça, c'est terminé, c'est totalement révolu. Mais en même temps, est-ce que l'on peut encore continuer à acheter la paix sociale en deçà des 6% et des poussières? Ça, on ne sait pas.
Lors du plénum que j'évoquais au début de l'émission, a été adopté l'objectif d'une croissance économique moyenne haute pour 2016 et les années suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire, Alice Ekman? Parce que ça n'a pas été beaucoup plus précisé que ça. Hein.
Oui, mais justement, cette imprécision confirme, on va dire, le fait que les autorités sont pleinement conscientes de la baisse du taux de croissance et sont pleinement conscientes que les perspectives ne sont pas très optimistes à court et moyen terme. Et donc, ils préfèrent ne pas donner d'objectifs extrêmement précis et parler plutôt de seuil plutôt que d'objectifs à atteindre. Donc, on est vraiment dans, je pense, une communication de précaution, qui est en même temps aussi alignée aux communications précédentes du gouvernement chinois concernant une croissance durable. Pour un peu légitimer la baisse du taux de croissance en Chine, le gouvernement chinois dit qu'il faut arrêter cette course à la performance, cette course aux chiffres. Quel est l'intérêt d'avoir un taux de croissance près de 10% si c'est pour avoir autant d'externalités, c'est-à-dire la pollution de l'air, de l'eau, une croissance qui ne bénéficie pas à tout le monde. Donc aujourd'hui, le gouvernement chinois essaye vraiment de communiquer, alors pour c'est ce qu'il appelle mettre l'humain au cœur. Alors ça nous paraît étonnant parce que c'est un élément de langage assez bateau, mais en fait c'est à dire qu'avant l'individu n'était pas la préoccupation principale, c'est à dire c'était la performance et les retombées sur la population urbaine, sur les migrants, etc. n'étaient pas en tout cas valorisées dans les textes officiels, dans les plans quinquennaux. Aujourd'hui on essaie de souligner les avantages de tel plan, de telle réforme pour la vie des Chinois, des foyers, la consommation, etc. Donc c'est vraiment un changement d'optique qui s'accompagne aussi d'un nouveau développement rhétorique qui est le rêve chinois, qui selon moi s'adresse avant tout à la part la plus pauvre de la population chinoise, puisqu'il reste encore énormément de décalage en termes de développement entre les ruraux et les urbains en Chine.
Est-ce que c'est parce qu'on met l'humain au cœur désormais en Chine, Alice Ekman, que les autorités chinoises n'emploient pas les grands moyens pour obtenir l'objectif qui est le leur, c'est-à-dire passer d'une politique d'investissement industriel extrêmement important à une politique de relance par la consommation. C'est-à-dire on attend que ça vienne un peu plus de la population, que ça soit moins imposé par la force, disons.
Oui, enfin, en même temps, pour mettre l'humain au cœur, il faudrait que les Chinois, les foyers chinois, se sentent, confortable, en tout cas, et un sentiment de stabilité dans le régime actuel. Et c'est le problème de couverture maladie, couverture sociale au sens large, incomplète. C'est-à-dire que pour stimuler la consommation intérieure, il faudrait aussi donner l'assurance aux foyers chinois que l'État est là en cas de pépin, c'est-à-dire pour les pensions de retraite, pour les accidents du travail, pour le chômage, pour les pépins de santé, etc. Et aujourd'hui, s'il y a autant d'épargne chinoise, c'est justement en prévision de ces coutures.
Oui, mais quand en Chine, le pouvoir décide d'une politique, en général, on met tous les moyens pour arriver à cette politique, Emmanuel Lincoln.
Oui, ça reste toujours très directif. C'est un État encore colbertiste, hein, pour parler un langage qui nous est a priori un peu plus familier. Mais ce que dit Alice est très juste, hein, c'est-à-dire que c'est un retour. Alors ça peut prêter à sourire cyniquement, surtout pour un régime dictatorial, hein, mais c'est un retour effectivement à l'humain. Ça c'est très important, et je pense que quand les Chinois nous parlent du développement de l'intérieur, il faut les prendre au mot. C'est-à-dire l'intérieur, pourquoi pas même au sens d'une spiritualité. Alors là aussi, ça peut prêter à sourire, si vous voulez. Mais on se pose enfin, je pense, la question du sens. Est-ce que effectivement, ça a du sens que de développer des villes absolument démentes, de 34 millions d'habitants, qui polluent, etc., etc. On commence justement à ralentir, si vous voulez. On commence à observer autour de soi ce qui se passe. Et c'est peut-être ça aussi le début d'une maturation, c'est-à-dire regardons où nous en sommes. Tournons-nous un peu vers notre passé et prenons un peu du champ.
Jean-François Dufour, vous êtes d'accord avec ça? Et ce serait un des signes de cette maturation et de cette nouvelle maturité de la puissance chinoise?
Alors, c'est un des signes, effectivement. Alors, je suis désolé, mais j'aurai un point de vue beaucoup plus prosaïque, puisque je travaille essentiellement sur l'économie. Je pense qu'on a aussi le fait, tout simplement, que cette politique, elle est dictée par des nécessités absolues pour la Chine. C'est-à-dire que le pays est confronté aujourd'hui aux limites difficilement gérables de sa politique de surinvestissement. C'est-à-dire que quand on prend la Chine aujourd'hui, si on veut prendre un exemple extrême, qui est celui de la sidérurgie, la Chine aujourd'hui produit à peu près la moitié de l'acier mondial, donc de mémoire, ça fait à peu près 750 millions de tonnes, mais elle a des capacités de production pour à peu près 1 milliard de tonnes. On sait que les capacités de production inutilisées en Chine dans la sidérurgie, c'est à peu près 30%. Et on a beaucoup de domaines dans lesquels c'est le cas, d'où cette nécessité de trouver un relais de croissance. Et alors en fait, des relais de croissance, c'est-à-dire la consommation au niveau domestique, mais ceci étant dit, quelque chose qu'on a tendance à moins voir parfois, c'est que la Chine essaye également aujourd'hui, et ça explique en partie ses efforts d'insertion internationale, d'exporter son modèle de développement pour trouver des relais de croissance à l'étranger.
L'exporter où ça, par exemple ?
Alors par exemple, quand j'évoque ce sujet, ça fait référence très concrètement à des choses qui ont été très visibles l'an dernier et cette année, comme l'AIIB, l'Asian Infrastructure Investment Bank, qui est en fait un concurrent aux organismes financiers internationaux que Pékin est en train de mettre en place.
Voilà, je traduis juste en français, Chine, un banque asiatique d'investissement en infrastructure.
En infrastructure, effectivement. Donc qui est en fait un instrument financier qui a pour vocation de financer dans des pays parfois voisins de la Chine, mais parfois assez éloignés, des chantiers d'infrastructures tels que ceux que la Chine a entrepris sur les 30 dernières années et qu'elle ne peut plus mener de manière aussi extensive qu'auparavant, avec l'idée que ce serait un des moyens de maintenir une activité pour les entreprises chinoises spécialisées dans ces secteurs.
Salut Sekman, je vous laisse terminer.
J'allais simplement dire, on a une situation un petit peu paradoxale avec beaucoup d'économistes occidentaux qui sont persuadés que la Chine a pour finalité d'importer notre modèle économique, et une réalité de terrain qui est qu'en fait, elle essaye surtout d'exporter le sien en ce moment.
Cette volonté d'exporter un modèle économique, Alice Ekman, c'est avant tout dicté par des questions économiques, justement, ou est-ce que c'est aussi dicté par des questions politiques ?
Pas uniquement, c'est aussi une compétition idéologique qui se dessine aujourd'hui à l'échelle mondiale, et en particulier à direction des pays en développement, que la Chine vise tout particulièrement par son discours sur le modèle chinois, en effet, modèle chinois qui serait plus efficace économiquement que le modèle américain. Donc on a vraiment vraiment une compétition donc qui se fait à tous les niveaux, mais qui est relayée donc par un réseau de médias chinois de plus en plus large, qui diffuse en langue locale sur tous les continents, et très organisé. On note un fort besoin de reconnaissance de la Chine, hein, reconnaissance idéologique, reconnaissance de son modèle économique, etc. Alors bien sûr, il y a des limites à cette rhétorique, parce qu'on voit aussi que la Chine, les entreprises chinoises ou le gouvernement chinois parfois font face aussi à des critiques sur le continent africain ou en Asie du Sud-Est, sur leur politique d'investissement, d'intégration sur le marché local, etc. Mais on a une vraie compétition qui est à différents niveaux, mais également au niveau rhétorique et idéologique qui est très clair aujourd'hui.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La Chine devient-elle une puissance mature? C'est le thème de notre discussion ce soir avec Alice Seckmann, Jean-François Dufour et Emmanuel Linco. Emmanuel Linco, bah restons sur cette idée de compétition. Pour qu'il y ait compétition, faut qu'il y ait des compétiteurs. Avec qui la Chine est-elle aujourd'hui en compétition? En tout cas, voudrait-elle être en compétition? Est-ce que ce sont avant tout les États-Unis? Est-ce que la Chine se vit comme une puissance, si ce n'est équivalente, ou en tout cas susceptible de devenir équivalente à celle des États-Unis?
La définition traditionnelle de la puissance, c'est le fait d'être un État souverain, d'avoir les frontières et d'avoir les moyens même de garantir sa puissance, moyens militaires notamment. Mais tout cela, c'est une tradition précisément. En tout cas, nous avons là un certain nombre de codes, de grilles de lecture qui nous viennent, je dirais, de loin. Bon. Peut-être que la Chine réinvente justement la définition même de la puissance. Alors c'est peut-être une puissance type soft power par des effets de rhétorique, mais aussi l'imposition de nouvelles normes. Et on le voit dans le domaine bancaire, c'est très prosaïque effectivement. La Chine constate, comme d'autres, mais d'une manière beaucoup plus proactive, que nous sommes dans une crise financière structurelle, que les accords de Bretton Woods, ça ne marche plus, que le FMI, ça ne marche plus non plus, donc il faut se réinventer. Et elle se donne les outils, justement, de cette réinvention.
Il y a l'idée de réinventer le monde, et en tout cas la façon dont le monde est organisé, Alice Seckmann, monde qui a été organisé essentiellement, on va dire, par les Occidentaux, en tout cas les États-Unis, avec l'aide de l'Union européenne. Cette banque, effectivement, asiatique d'investissement en infrastructure, la BA2I, elle est vue aussi comme une concurrente directe de ce qu'est, par exemple, la Banque mondiale. Donc là, c'est quand même aller sur le terrain des États-Unis.
Oui, la Chine développe un activisme institutionnel sans précédent, qui existait déjà sous Hu Jintao, mais qui s'est accéléré sous la présidence de Xi Jinping. Et elle développe cet activisme sous trois axes, trois manières. Première, c'est intégration dans les institutions existantes. Donc c'est pas forcément une remise en cause des institutions.
Par exemple l'OMC.
Par exemple l'OMC. Par exemple le groupe des BRICS qui existait mais auquel elle s'intègre davantage. Le G20, diverses institutions des Nations Unies et satellites. Alors premier axe. Deuxième axe, une revivification d'institutions régionales ou mondiales qui étaient mourantes ou peu influentes. Et je pense par exemple à la SICA, qui est la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, une conférence de sécurité qui était finalement qui servait à peu de choses jusqu'à présent et que la Chine, sous sa présidence, essaye de stimuler et de rendre influente, d'autant que beaucoup de pays asiatiques y participent, mais pas les États-Unis et pas le Japon. Donc ça l'intéresse d'un point de vue stratégique. Et troisième biais, la Chine crée de nouvelles institutions qui seraient alternatives au premier type d'institution, c'est-à-dire les institutions existantes auxquelles n'aurait pas réussi à s'intégrer, au sein desquelles n'aurait pas réussi à s'intégrer pleinement. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est-à-dire les deux en même temps, comme ça, plan A et plan B. Et donc, l'AIIB, c'est l'exemple même de cet activisme et de cette création d'institutions. Et depuis le lancement de cette banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, donc, qui a été lancée par Pékin à automne 2013, il y a une confiance renforcée en Chine dans les capacités du pays à restructurer la façon dont la région et le monde s'organisent. Parce que le lancement... Alors, on ne sait pas si la banque elle-même sera un succès, mais son lancement l'est déjà, puisque compte tenu du nombre de pays qui ont rejoint le projet, 57 membres fondateurs...
Dont 17 des Européens.
17 Européens.
Dont la France, la Grande-Bretagne.
17 Européens. Et c'est bien plus qu'imaginé à Pékin au départ. Donc, ils ont été surpris. Ils se sont dit, finalement, c'est si facile de créer des institutions, en fait. Et ils annoncent aujourd'hui qu'ils vont en créer beaucoup plus. d'autres dans le domaine économique, mais aussi de sécurité.
C'est vrai que j'ai été assez surpris en préparant l'émission de constater la présence aussi importante d'Européens dans ce projet de banque d'investissement. Ça, c'est un vrai succès pour la politique chinoise, Jean-François Dufour.
Oui, c'est un vrai succès et qui est tout simplement le reflet très clairement exprimé de la grande puissance de la Chine aujourd'hui, qui est sa capacité de financement. Parce que derrière l'adhésion de pays européens, donc effectivement c'est le Royaume-Uni qui a ouvert le bal au grand désappointement de Washington, puisque c'est bien sûr son allié traditionnel européen, et qui a été immédiatement suivi par l'Allemagne et la France. Le grand souci des pays européens, c'est d'être associé aux éventuels chantiers qui pourraient être financés par cette banque, et qui iraient probablement en priorité à des maîtres d'œuvre chinois, puisque les financements seraient chinois. Donc effectivement, c'est de manière très, très prosaïque une démonstration de l'influence que donne à la Chine sa capacité de financement aujourd'hui.
Avec un projet de nouvelle route de la soie, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot, Jean-François Dufour, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle route de la soie ?
Alors, la nouvelle route de la soie, bon, c'est un projet qui fait appel, bien sûr, à un imaginaire commun à la fois entre l'Europe et la Chine. C'est un concept politique qui vise à donner une légitimation politico-culturelle, justement, à ces efforts de développement économique international de la Chine. Ça permet de présenter les choses de manière plus agréable.
C'est un tracé terrestre, j'ai vu, qui va relier la Chine à l'Europe. C'est extrêmement ambitieux, hein, Emmanuel Linco.
Et maritime, faut-il le rappeler. D'où, d'ailleurs, la visite de Xi Jinping à Singapour, là même où il a rencontré Ma Yintiu. C'est-à-dire que c'est une façon le président taïwanais, et sur lequel nous allons revenir. C'est une façon de rappeler, par la convocation de l'histoire, que la Chine, évidemment, a été, dans le passé, une grande puissance et entend le redevenir.
Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas seulement la volonté, peut-être, de restructurer les organisations internationales, mais aussi presque de redessiner la géographie, en tout cas, un certain nombre d'axes qui existent déjà.
Alors, la Chine, de ce point de vue-là, est une force de proposition. Maintenant, en a-t-elle vraiment les moyens ? Il faut aussi compter sur une conjoncture favorable. Or, cette conjoncture est plutôt défavorable, en tout cas pour le moment, aux intérêts chinois dans la réouverture de ces routes tout au moins terrestres dites de la soie.
Vous parlez de quelle conjoncture ? Conjoncture géopolitique ou économique ?
Géopolitique notamment. Vous voyez le Moyen-Orient, vous voyez l'Ukraine, ce sont des régions chrysogènes et évidemment, avec les meilleures intentions du monde et même si la Chine réussit à établir une sorte de glacis en s'appuyant sur la puissance russe, eh bien c'est quand même difficile. C'est une façon d'essayer de se désenclaver, tant sur le plan économique que géopolitique, mais en même temps, ce n'est pas gagné.
Alice Ekman ?
Oui, en même temps, les routes de la soie, c'est un projet ultra pragmatique et ultra flexible. Alors, pragmatique, concentré sur le développement des infrastructures de transport, donc routes, ponts, autoroutes, aéroports, ports, infrastructures énergétiques, infrastructures de télécommunications, et quatrième point, volonté chinoise d'exporter ce qu'elles appellent les zones industrielles ou les zones pilotes, c'est-à-dire ces vastes zones qui existent un peu partout sur le territoire chinois, avec plus ou moins de succès pour attirer les investissements étrangers. Et la Chine les construit désormais en Asie centrale, dans certains pays européens, en Asie du Sud-Est. Donc c'est avant tout construction dure infrastructure. Alors c'est avant tout un projet de diplomatie économique qui va rencontrer des réticences face notamment à des enjeux de sécurité, que ce soit au Pakistan ou dans certains pays d'Asie centrale, mais ce n'est pas qu'un projet économique, c'est aussi un projet géopolitique, puisqu'il y a du côté chinois la volonté d'établir ce projet des routes de la soie comme une plateforme, et ça c'est le terme officiel, c'est-à-dire utiliser ce concept comme un argument, voire une excuse de rencontre entre acteurs de différents horizons, représentants d'entreprises étrangères et chinoises, représentants de gouvernements centraux et locaux, régions, provinces, etc., autour d'un sujet commun. Mais en fait, le sujet, c'est pas vraiment le plus important. L'important, c'est de faire du business, faire de la coopération autour d'un agenda chinois. Donc c'est la Chine qui réunit avec ses priorités nationales en tête, ses objectifs. La Chine organise de plus en plus de rencontres de ce type. diplomatie chinoise est très proactive et on voit réellement aujourd'hui une volonté à Pékin de formuler l'ordre du jour des sommets régionaux et internationaux. Et je pense que les conséquences de ces rencontres ne doivent pas être sous-estimées parce que les choses se font là-bas aussi.
Projet économique et projet géopolitique, Emmanuel Linco, est-ce que ça veut dire que c'est aussi une façon pour la Chine de sortir peut-être aussi d'une forme d'isolement, c'est-à-dire que qui sont les alliés de la Chine aujourd'hui, ne serait-ce que dans la région, on a plutôt l'impression qu'il y a cette grande puissance, et puis qu'ensuite, à côté, il y a les alliés des Américains, que sont le Japon, que sont la Corée du Sud, que sont le Vietnam, trois pays d'ailleurs dont les... Xi Jinping est allé rencontrer, enfin il est allé rencontrer à la rencontre de leur leader. Est-ce qu'il y a une volonté de sortir d'une forme d'isolement diplomatique aujourd'hui de la part des Chinois ?
Oui, ça c'est incontestablement une constante qui a commencé depuis Bandung, depuis 1955. C'est-à-dire qu'il y a une position clairement tiers-mondiste de la Chine qu'elle revendique vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne en particulier, avec des revirements historiques aussi, on le sait bien. Il y avait eu un schisme idéologique grave avec Moscou en 1960, et puis à partir du début des années 2000, le grand retour de l'amitié sino-russe. Récemment, au mois de juillet dernier, la rencontre de Oufa, où siégeaient à la fois les représentants des pays des BRICS, mais aussi ceux de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc c'est très important. Et effectivement, de ce point de vue-là aussi, la Chine montre qu'elle est clairement une force de proposition. Mais en même temps... est-ce qu'elle a vraiment les moyens de sa politique ? Ça, je me pose toujours cette question. Il y a quelques années, on s'en souvient, en Asie centrale, il y avait eu des heurts intercommunautaires très importants au Kirghizistan, entre les communautés ouzbèques et kirghizes. Bon, ces deux États sont pourtant membres de l'Organisation mondiale, l'Organisation de coopération de Shanghai. Et la Chine n'a pas trouvé les moyens d'intervenir dans le cadre d'une opération type maintien de la paix, vous voyez ? Donc... c'est une puissance en réalité fragile. Parfois, je doute même de la réalité d'une véritable politique étrangère de la Chine, dont je vais assez loin. Pour moi, il y a avant tout une politique sécuritaire. Sécuritaire, évidemment, de ses intérêts. Et la Chine, peut-être plus que la France, incontestablement, est sans doute la plus gaullienne des États actuels. C'est-à-dire que la Chine, clairement, n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, faire la part des choses entre les grands effets de rhétorique, la fraternité entre les peuples, etc., qui est encore un héritage très marxisant, si vous voulez, et la dure et prosaïque réalité qui est évidemment tout autre.
Bon, il n'a pas d'amis, mais il n'a que des intérêts. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça, finalement, de peut-être la quasi-totalité des pays ? Jean-François Dufour, je sais que vous, vous êtes spécialiste des questions économiques, mais sur ces questions politiques, est-ce que la Chine a les moyens de créer de grandes alliances politiques ?
Alors, je ne serai pas plus prophète que vos autres invités. Non, simplement pour revenir sur l'aspect économique, c'est un aspect qui est clair de manière très 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 évidente. Hein, ces priorités chinoises. Je pense qu'effectivement, un des grands thèmes à avoir à l'esprit toujours, c'est que toute la politique extérieure de la Chine est déterminée par des questions domestiques. Hein, ça a toujours été une constante pour le pays le plus peuplé au monde. C'est un pays qui a de tels problèmes domestiques qu'il est très loin de toute vocation universaliste comme on peut la trouver par exemple avec les États-Unis. Et je pense que un des éléments, comme ça a été évoqué, qui donne aujourd'hui l'idée d'un certain flou sur sa politique extérieure, c'est qu'en fait elle est très compliquée. C'est-à-dire que la Chine essaye de redessiner les choses d'une manière qui lui soit un peu plus favorable, mais en même temps sans bouleverser l'ordre international parce qu'elle a besoin de stabilité. On a évoqué tout à l'heure la question de Taïwan, c'en est une des nombreuses illustrations, et la Chine joue un jeu diplomatique assez difficile, consistant à la fois à faire évoluer les choses dans un sens qui lui soit plus favorable, mais sans risquer de mettre à mal vraiment l'ordre international.
Bon, Alice Ekman, quand Xi Jinping va serrer la main à Singapour du président taïwanais Ma Ying-jeou, quand il va donc participer à ce sommet avec le Japon et la Corée du Sud, quand il se rend au Vietnam, ce sont des faits extrêmement récents, quand la Chine s'engage aux côtés de la France pour une réduction importante de gaz à effet de serre avec une révision tous les 5 ans, où là aussi c'est un engagement important, à chaque fois, il ne faut pas perdre de vue les questions de politique intérieure, toutes ces décisions-là sont guidées par ça avant tout.
Oui, mais avant tout, il ne faut pas perdre de vue la communication et la stratégie réelle derrière la communication. Ce n'est pas parce que la communication est dure que les revendications seront moins fermes sur des enjeux considérés comme des intérêts considérés fondamentaux par la Chine. La Chine vise toujours la réunification avec Taïwan à terme. La Chine défend avec fermeté ses différents territoriaux en mer de Chine du Sud et en mer de Chine orientale. La Chine souhaite quand même, si ce n'est pas restructurer l'ordre mondial, en tout cas elle souhaite restructurer la façon dont la région fonctionne, voire le monde. Là, on parle d'activisme institutionnel.
Et donc, il faut pas oublier que la Chine vise un leadership mondial, c'est-à-dire prendre à terme la place des États-Unis.
Elle va le faire sur le fonctionnement,
sur le terrain économique,
Le fonctionnement du monde. C'est-à-dire qu'elle voulait mettre des règles du jeu. Et aujourd'hui, elle considère qu'elle en a les capacités et, à mon avis, seul un net ralentissement de la croissance, je ne parle pas 5 ou 4%, je parle encore plus net que ça, une réelle baisse du taux de croissance très importante, pourrait remettre en cause la confiance de la Chine à restructurer donc la façon dont les institutions régionales et mondiales fonctionnent. Et autre point, je pense, concernant la politique étrangère chinoise, et suite aux exemples que vous preniez, il ne faut pas oublier non plus que selon Pékin, il existe une très forte hiérarchie des priorités de politique étrangère chinoise. La Chine a une position assez claire sur les enjeux qui touchent son territoire ou la région. Donc on parlait de Taïwan, mais aussi différents territoriaux en mer de Chine orientale, sur la question aussi de l'ouest chinois, Tibet, Xinjiang, sur la situation Hong Kong, sur la péninsule coréenne, etc. Par contre, quand l'enjeu est plus éloigné, je pense par exemple à l'Ukraine, je pense par exemple à la Syrie, la Chine a quand même un positionnement ambigu. De fait, elle n'a pas défini de position claire sur ces sujets, car elle ne veut pas s'impliquer dans des enjeux qui sont particulièrement compliqués.
On peut peut-être dire pas encore.
Non, mais c'est un reculon, c'est un positionnement en reculon. Quand on parle de puissance responsable, il faut voir aussi de quelle région on parle et à quel éloignement, degré d'éloignement du territoire chinois.
En tout cas, sur cette diplomatie chinoise, alors il se trouve qu'au Grand Maudre, on a déjà fait un certain nombre d'émissions consacrées notamment à la politique extérieure chinoise. Il me semble que c'était à peu près il y a 2 ans, on avait fait une pour se demander si on n'allait pas vers un conflit armé entre les États-Unis et la Chine. Il y avait d'énormes tensions, notamment en mer de Chine. On voit bien que depuis quelques temps, on est plutôt dans une approche un peu plus conciliante et ouverte de la part de la politique étrangère chinoise. Emmanuel Linco, est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience où les dirigeants chinois se disent c'est peut-être par la diplomatie qu'on va arriver à nos fins, davantage que par la force?
De toute évidence, il y a volonté pour la Chine de sanctuariser ses intérêts. C'est pour cette raison, justement, que j'invoquais les principes très gaulliens de la Chine actuelle. Bon, ça, c'est évident. On le voit, effectivement, par cette politique tous azimuts menée tantôt vis-à-vis de la Corée du Sud, le Japon, y compris Taïwan, dont le prestige s'en trouve soudain totalement rehaussé. C'est tout à fait inédit, cet événement. Mais je ne crois sincèrement pas à des risques de conflits militaires. On est plutôt dans
une... En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée d'un changement d'attitude ces dernières semaines, ces derniers mois, où on est moins dans le côté belliqueux et davantage...
Il y a des coups de menton, incontestablement, parce que ce sont les deux seules puissances véritablement qui comptent, les États-Unis et la Chine, mais en même temps, on est dans une logique d'affrontement pacifique. Disons les choses d'une manière toute dialectique, c'est-à-dire qu'une guerre, ça coûterait tout simplement trop cher, et surtout, les Chinois sont de bons historiens, c'est-à-dire qu'ils comprennent que se lancer à corps perdu, comme l'avaient fait avant eux les Soviétiques dans une course effrénée aux armements et donc répondant par là même aux défis lancés par les Américains, c'est contre-productif et ça coûtera beaucoup trop cher et ça pourrait coûter même la survie du régime. Donc surtout ne pas s'avancer dans cette aventure-là, mais il n'empêche, pour des raisons à la fois de politique intérieure, de prestige international, la Chine cherche encore une fois à sanctuariser son précaré, notamment toute la région de l'Asie du Sud-Est que vous avez rappelé, le fait aussi de se rapprocher d'une manière tout à fait inédite, encore une fois, de Ma Ying-jeou, le président taïwanais en partance, c'est une façon de rappeler, pour dire les choses trivialement, patouche. Ça nous appartient.
Allez, Sekman.
Oui, en même temps, on assiste à ce développement de politique étrangère, mais il ne faut pas oublier que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, aussi on a des évolutions de politique intérieure extrêmement significatives. Et je pense à la consolidation de son propre pouvoir, qui est manifeste à travers trois canaux. Premièrement, la restructuration administrative.
La lutte anticorruption.
La lutte anticorruption, dont certaines méthodes rappellent au sein même du parti celles employées lors de révolutions culturelles. Et donc, on perçoit quand même un retour en arrière dans l'emploi de méthodes de dénonciation, de séances de critique et d'autocritique.
Justement, sur cette lutte anticorruption, il ne faut pas y voir une forme de maturité vers une Chine plus démocratique où on lutte contre la corruption.
Non, l'idée, c'est des jeux de pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Chine se démocratise. Il y a quand même un retour en arrière assez net, visible sur le terrain en Chine depuis 3 ans.
Merci beaucoup. Voilà, je vous interromps là parce que, comme vous l'entendez, c'est le générique de fin. L'émission est terminée. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Emmanuel Linco, Alice Ekman et Jean-François Dufour qui se trouvaient en duplex des studios de France Bleu Aix-en-Provence, que je remercie également. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Nafsika Papanikolaou. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédéric. On se retrouve demain à 18h20 en direct, même si c'est un jour férié, pour la question suivante. L'aide au développement doit-elle être un outil des politiques migratoires? On le fera à l'occasion du sommet de La Valette, sommet Europe-Afrique.